Je cède la parole à Xavier qui nous est arrivé par le train, puisque nous avons encore un train qui arrive et que nous tenons à ce que notre train continue à arriver. Voilà. Xavier.
Merci, bonsoir à tous. Je dois commencer par vous présenter quelques livres, si j'ai bien compris. Alors, je peux demander peut-être à quelqu'un qui se trouve... Ah ben, oui, bien sûr, quelqu'un qui se trouve à côté du stand. Alors, on peut... Bon, difficile de savoir par où commencer. Je vais commencer par le livre qui me vaut d'être là, tout petit livre, « Désobéir par le rire ». Voilà, c'est l'un des titres d'une collection que le collectif que je représente ici, Les Désobéissants, anime. Collection de petits guides pratiques pour désobéir, pour résister. Ils sont d'habitude sur une thématique de résistance, désobéir pour le service public, désobéir au sexisme, désobéir au nucléaire, etc. Celui-là est un peu particulier puisque on désobéit évidemment pas contre le rire. Là, on présente un outil qui est transversal et qui est régulièrement utilisé dans toutes sortes de luttes, dont vous allez voir un large panel dans le diaporama que je vais vous présenter. Cette collection de petits ouvrages est toujours fichue pareil. Vous avez une première partie un peu politique qui rappelle l'intérêt qu'il y a à se battre sur tel ou tel thème et ce qui se passe. Ça permet une compréhension globale assez rapide d'un enjeu. Sur la question du rire, j'en rappellerai deux, trois éléments. C'est la force du rire, ce que veut dire le rire en politique, en fait, en résistance. La deuxième partie, c'est toujours l'historique. On essaie de retrouver un petit peu le chemin des luttes passées, des victoires passées aussi, pour se rebooster un petit peu, pour se redonner de l'optimisme, rappeler ce qui a été fait de façon un peu originale, spectaculaire, audacieuse, par les générations passées, ou aussi par nos voisins. L'idée est bien sûr d'inspirer nos luttes actuelles. La troisième partie de ces petits bouquins, c'est toujours l'agir pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le rire? Comment on s'y prend pour faire un certain nombre des techniques que je vais vous présenter sur ce diaporama? Et puis pour finir, il y a justement une bibliographie et le renvoi vers des sites et des organisations qui utilisent le rire pour se battre et faire avancer la justice. Alors, il y a aussi un manuel de communication guérilla. C'est pas celui-là, mais on va le présenter celui-là si tu veux. Voilà, le orange. Voilà. Les deux se ressemblent et sont très largement dans le même esprit. Le manuel de communication guérilla, c'est la traduction d'un livre allemand. Qui était un classique en Allemagne, enfin dans les milieux contestataires, qui reprend en gros ces 20 dernières années tout ce qui s'est fait de l'ordre de la contestation, utilisant des moyens originaux, audacieux, spectaculaires et drôles. Et donc on a là-dedans toutes sortes d'exemples vraiment drôles et vraiment forts de résistance face à toutes les oppressions actuelles. Je vous en donnerai aussi des exemples, donc je ne m'étale pas sur le contenu. Et le Guérilla Kit, c'est un peu le petit manuel de l'altermondialisme. Il date de 2003 déjà, mais il est régulièrement réédité par La Découverte. C'est en quelque sorte le catalogue de tous les outils, c'est très largement exhaustif. Là, j'imagine pas tout, mais... quand déjà vous aurez épuisé tous ces outils de lutte, on pourra en reparler. Comment ça va de comment faire une banderole, comment faire un tract ou un communiqué de presse, jusqu'à comment faire un réveil ministre, comment faire un vomit in. Il y a le die in, on s'allonge, il y a le kiss in, on s'embrasse, et puis le vomit in, quand une décision en particulier du conseil municipal ne vous plaît pas. Voilà, généralement, ça interrompt les travaux. Donc, le Guérilla Kit vous dit un petit peu tout ça. C'est les Anglais qui ont inventé ça. Le Vomit In. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi l'excellent bouquin de Jean-Michel Ribes, homme de théâtre et grand amateur d'humour, qui a fait en deux tomes une sorte d'encyclopédie de tout l'humour politique. L'humour de résistance, donc on est un peu au-delà de la désobéissance, je donnerai quelques définitions dans un instant. Là, on retrouve Coluche, on retrouve tous ceux pas que des Français d'ailleurs, puisqu'il y a Michael Moore, il y a quelques autres, tous ceux de ces personnages qui ont décidé par l'humour de rejoindre la résistance pour faire avancer la justice, pour faire reculer l'obscurantisme, l'oppression. Enfin, après, mettez les mots que vous voulez. Donc ça, c'est passionnant. Ça brasse très large. Vous avez des interviews des personnes en question ou d'analyses autour de leurs œuvres, des extraits de leurs œuvres, de leurs sketchs, etc.
Le tome 1 est en réédition. Vous le trouverez peut-être par hasard dans l'une librairie ou l'autre. Et là, la Maison du Livre ne l'a plus et nous a prêté ces exemplaires-là pour nous a donné pour vendre tout à l'heure.
Voilà, après je sais plus ce qu'il y a. Il y a mon petit manuel de désobéissance civile. Ah oui, il y a le bouquin des Yes Men, malheureusement en anglais seulement. Alors les Yes Men, c'est l'un des deux compères, Andy là, qu'on voit sur la scène. Il est à une des réunions de l'Organisation mondiale du commerce où il s'est fait inviter au nom d'une délégation quelconque. Il a fait avec son compère un site internet bidon qui lui de représentant d'État, de je sais pas quoi, qui lui a valu du coup de recevoir une invitation de l'Organisation mondiale du commerce et de pouvoir même intervenir lors d'une des conférences sur les nouvelles méthodes de management. Et là, il explique qu'il est à l'origine d'un costume spécial manager qui permet de multinationales, qui permet dans son salon où on veut de regarder le travail de ses ouvriers en Indonésie, en Malaisie, à l'aide d'un ordinateur avec écran qui est placé au bout d'un manche comme vous le voyez, donne une idée du pouvoir que peuvent avoir les personnes qui dirigent des ouvriers à l'autre bout du monde. Voilà, bon, c'est le type d'humour de provocation. Je vous en donnerai d'autres exemples. Des Yes Men, ils ont fait deux films et un bouquin. Le bouquin est passionnant. On vous dira aussi comment ils sont intervenus dans des écoles de commerce pour présenter un moyen révolutionnaire, supposément produit par l'Organisation mondiale du commerce, pour résoudre le problème dramatique de la faim dans le monde, en recyclant la matière organique, nos cadavres, pour en faire de la viande de McDonald's. Et alors bien sûr, avant d'expliquer tout ça, tout en faisant cette conférence très sérieuse, en cravate hein, évidemment, il explique qu'il va expliquer justement le moyen de résoudre la faim dans le monde, et puis bien sûr avant, il distribue des hamburgers que les étudiants dévorent, avant de leur expliquer bien sûr qu'ils viennent de tester le produit nouveau à base de cadavres. Bon, histoire de... Alors, il se trouve qu'il y a aussi... alors, pour le coup, le lien direct avec la soirée n'est pas évident, mais il y en a un petit. Le dernier livre de Michel Onfray consacré à Camus, et à la bagarre Camus-Sartre et à la philosophie de Camus, que Michel Onfray situe dans le courant hédoniste, qui fait du plaisir, de l'humour et du corps un fondamental contre le courant en gros platonicien, judéo-chrétien dominant et autres, qui a été plutôt dans la haine du corps, dans le rejet du plaisir et parfois même la condamnation de l'humour et du rire. Voilà, je pense que j'ai vite fait le tour. Commençons tout de suite par la désobéissance par le rire. Alors d'abord, on parle de désobéissance civile. Je vais vous parler d'un type précis de désobéissance civile. Alors qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile ? C'est d'abord l'idée de désobéir à une loi parce qu'on considère que cette loi est injuste ou parce qu'on considère que cette loi protège des pratiques injustes. On est donc bien dans un acte illégal où l'on va s'exposer éventuellement à une sanction. C'est d'ailleurs l'une des autres caractéristiques de la désobéissance civile que d'assumer publiquement son geste de désobéissance, publiquement, c'est-à-dire devant le tribunal de l'opinion publique, mais aussi devant le tribunal tout court. C'est d'ailleurs souvent un élément essentiel de la stratégie de la désobéissance civile que de défier la répression, de dire comme Gandhi, j'ai tort de désobéir à la loi coloniale britannique et alors vous devez me mettre en prison le plus longtemps possible, ou alors j'ai raison et alors fichez le camp et laissez-moi libre. C'est aussi une action collective et pour la défense d'un intérêt qui dépasse le seul intérêt de celui qui combat. On est dans ce que l'on pense être, quand on combat, par ce moyen-là, un intérêt collectif. Et c'est une action civile, civile au sens des manières fort civiles, c'est un sens un peu désuet du mot, qui veut dire poli, qui veut dire respectueux de l'autre, de sa personne humaine. On s'attaque à une fonction sociale, on a bien un adversaire, on veut bien gagner, mais on ne s'attaque pas à la personne humaine qui incarne notre adversaire. Et c'est une action directe, on ne délègue pas, on agit nous directement, et on agit nous directement là où ça se passe. On ne va pas manifester à 100 km d'un centre de rétention pour dénoncer les expulsions ou le traitement fait aux étrangers, on va aller devant le centre de rétention, voire bloquer le centre de rétention, occuper le centre de rétention, etc. On va aller là où le problème se pose, pour essayer d'avoir un impact direct. Voilà pour la désobéissance civile. Revenons à l'humour. On est là dans une bataille politique. Dans une bataille politique, il ne s'agit pas juste de protester, comme le font trop souvent les militants, en allant dans la rue en disant « je suis en colère » ou « je suis contre », parce que ça, c'est symbolique, c'est de la communication. On n'a pratiquement jamais gagné un combat politique en simplement disant qu'on était contre quelque chose. Là, il s'agit de construire un rapport de force pour que l'adversaire, à un moment, accepte de faire des concessions, accepte déjà un dialogue dont il nous a bien souvent refusé la possibilité. Pour créer ce rapport de force, il faut conquérir l'opinion publique. Il faut entraîner l'opinion publique dans la bagarre. Généralement, quand on est victime d'une injustice, c'est parce que celui qui est à l'origine de cette injustice est très fort. Et nous, on est faible. Donc, on peut subir cette injustice. Si on reste dans un combat frontal, à deux, forcément, on va perdre, puisqu'on est petit et qu'il est gros. L'idée, c'est donc de ramener l'opinion publique dans ce combat, de l'élargir de la sorte, pour que les poids s'équilibrent, voire même que l'on parvienne à gagner. Et là, le rire peut nous aider. Saul Alinsky, qui était un des théoriciens de la désobéissance civile et aussi un praticien aux États-Unis, il est mort en 1972, donc c'est surtout dans les années 50-60 qu'il est actif, nous dit que même le ridicule, l'humour de dérision, est l'arme la plus puissante qui soit. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il a fait des miracles en utilisant l'humour, je vous en dirai un mot tout à l'heure. L'idée de l'humour, c'est de mettre les rieurs de son côté. Donc d'entraîner l'opinion publique de son côté, de montrer que l'empereur est nu, de montrer la réalité au-delà des oripeaux dont il entoure son pouvoir, de simplifier le message, c'est aussi pédagogique, le rire. Quand on fait rire, généralement, c'est qu'on est compris. C'est un moyen d'apaiser des tensions. On va utiliser certaines techniques de l'humour face à des policiers, par exemple, au moment où ceux-ci voudraient charger, utiliser la répression. On va voir que l'humour peut désamorcer la violence policière, par exemple, ou celle d'un vigile, ou celle d'un cadre supérieur quand on envahit une entreprise, quand on bloque un département finance dans le cadre d'une grève et autres. L'humour fait reculer la peur, celle de notre adversaire qui, quand il a peur, est tenté d'utiliser de la violence, et puis bien sûr la nôtre. Quand on se met en danger, quand on s'expose dans une lutte politique avec des intérêts forts en jeu, on prend des risques. L'humour nous aide à les surmonter. Désamorphe le bluff aussi de l'autorité. La personne en uniforme, la personne en cravate avec des diplômes, l'élu, la personne célèbre, tous ces gens-là exercent sur nous, qu'on le veuille ou non, un certain pouvoir, symbolique au moins. La peur, l'humour va nous aider à rétablir un peu l'équilibre, à nous ramener que la personne en face, à nous rappeler, pardon, que la personne en face de nous, elle est faite de chair et d'os comme nous, elle va aux toilettes comme nous, elle est désespérément humaine. Et que donc on est peut-être à égalité, plutôt que soumis. Et l'humour va aussi pousser l'adversaire à la faute. Lui, il n'a pas forcément le sens de l'humour, surtout quand ça révèle la réalité de ses pratiques. Et pour peu que vous ayez une caméra au moment où vous allez le provoquer par votre humour ravageur, il est susceptible de péter les plombs, de ne pas savoir comment se comporter dignement face à votre humour qui dit la vérité. Et là, le masque de la civilisation, le masque de la démagogie va tomber, la personne va se comporter mal devant votre caméra, et évidemment, le lendemain, vous pouvez négocier en échange de ne pas diffuser les images. On est bien là pour gagner, hein. Alors, on ne parle pas d'un humour qui serait cynique. Il existe aussi un humour réactionnaire qui essaie au contraire ou qui, de fait, rend acceptable le mal. Nous, on va utiliser l'humour pour dénoncer le mal, pas pour s'en faire une raison, comme certains cyniques pourraient le faire. Là, on a... on a différents militants anti-nucléaires militaires à Brest dans un festival écolo qui se tient juste à côté de la principale base nucléaire militaire européenne qui s'appelle l'île Longue, sur la presqu'île de Crozon en fait, juste en face de Brest. Donc je ne sais plus comment elle s'appelait, Sainte-Thérèse à la Touffe, je crois, quelque chose comme ça. Et puis à côté, là, on a des copains qui ont muré Areva, le siège d'Areva à Paris, pour en faire un sarcophage, en fait, comme ils ont fait à Tchernobyl. On s'est dit que le danger venait même carrément du siège de l'industrie nucléaire, alors autant nous en protéger par un sarcophage. Alors le rire est source de plaisir, et ce plaisir nous rend fort, nous rend audacieux, nous rend capable d'aller là où peut-être on ne serait pas allé. Vous avez ici un militant, là aussi anti-nucléaire, qui se déguise en clown. On parle de clown activisme, j'en reparlerai dans un instant, qui s'est fait même un patator. Le patator, c'est une sorte de tube qui permet d'envoyer des patates. Ou parfois des os directement pour dénoncer le fait que les armes tuent. Nous, on envoie directement les os. Et alors là, il a pris sa place parmi les gendarmes pour protéger la base de l'île Longue à Brest ou à Crozon. Ce plaisir par l'humour qui va nous permettre d'aller où on ne nous attend pas. Et évidemment, le fait d'y aller, ça va nous donner d'autant plus de plaisir, de jouissance. Là, vous avez en Basse-Normandie un copain qui occupe un grand pylône d'une ligne à très haute tension pour protester contre l'installation des lignes THT et la centrale nucléaire qui va avec, en l'occurrence l'EPR de Flamanville. Et puis là, une intrusion de votre serviteur dans une base nucléaire aussi. Le plaisir de transgresser, on n'est pas exactement dans l'humour, mais on est dans quelque chose qui est vraiment proche, qui nous fait beaucoup rire, mais qui va évidemment pas faire rire l'adversaire. Là, on s'est accroché avec des paires de menottes et autres aux tables des élus d'un conseil municipal qui s'apprête à voter un vœu pour avoir le deuxième EPR, encore sur le nucléaire. Et là, on a une invasion citoyenne et non violente de l'OTAN à Bruxelles ou au large de Bruxelles. Les Belges ont une campagne de désobéissance civile très forte contre l'OTAN. Il y a évidemment un grand plaisir à transgresser face aux militaires, face aux policiers, pour rentrer dans l'OTAN et perturber le fonctionnement. Alors, quelques outils. Là, une action écolo qui vient des États-Unis, le Park Inn, qui consiste en fait à partir à la reconquête des espaces urbains, notamment des espaces un peu confisqués par la voiture. C'est tout simple, prenez une place de parking. Alors là, vous avez le choix, il y a deux écoles, ceux qui payent le parc-mètre, ceux qui ne le payent pas. Mais c'est un peu secondaire, et puis vous y amenez un petit peu de gazon, un petit peu de quoi pique-niquer, vous invitez les gens, et ma foi, c'est devenu un espace à nous. Un espace qui n'est plus pour la voiture, qui est pour l'air frais, pour les enfants qui jouent, pour la convivialité, etc. Alors si vous le faites que sur une place, bon bah il y a deux, trois automobilistes qui vont râler, l'impact sera faible, mais si tous les matins, au moment où les gens arrivent pour aller travailler et doivent se garer, je sais pas, entre 7h et 9h par exemple, vous occupez progressivement de plus en plus de place. À un moment, les gens évidemment intègrent que cette rue c'est mort, ça sert à rien d'y aller. Donc ils n'y viennent plus pour tenter de s'y garer. Et vous avez reconquis un espace urbain pour le rendre aux piétons et à la nature. On est un tout petit peu dans l'an 01 de GB pour les gens qui ont la BD ou le film en tête. L'an 01, on arrête, demain on arrête et puis on commence à enlever les pavés et à faire pousser des carottes sur le trottoir. Bon, un petit peu d'utopie humoristique pour faire avancer la réflexion. Une autre façon drôle de lutter, c'est le pastiche. Alors là, on a affaire à du pastiche de premier ordre, puisqu'il s'agit encore des Yes Men, qui ont imité une édition du New York Times et puis une édition du New York Post deux titres importants aux États-Unis, et notamment pour annoncer que la guerre en Irak était terminée, bien avant que le gouvernement américain, évidemment, n'en décide, décide le retrait de ses troupes. Donc l'idée, évidemment, de montrer que des milliers d'Américains vont s'arracher ces copies-là, parce que c'est considéré comme une très bonne nouvelle, et le gouvernement va être obligé de démentir, de manière un peu catastrophique et largement embarrassée, le fait que non, on va rester en Irak, mais pourquoi déjà? Ben, je sais pas, mais on y reste. À côté, vous avez une qui dit « we're screwed », c'est-à-dire « on s'est fait avoir », éventuellement plus vulgaire, parce que Obama a trahi la plupart de ses promesses sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc une comme ça qui s'en prend directement au président. Alors l'entartage très médiatique avec notre ami Noël Godin, le Belge qui a amené cette technique d'interpellation. Des maîtres du monde, de désacralisation de l'autorité. On est dans un acte très largement anarchiste. Encore une fois, l'empereur est nu. Il est comme nous. Alors on peut plaisanter avec lui quelque part de la sorte le dépouiller de ses oripeaux de pouvoir, d'autorité, etc. Souvent usurpé. Donc Noël Godin est tout fier avec son portrait de Bill Gates qu'il avait réussi effectivement à entarter. Un célèbre imposteur de philosophie, Bernard-Henri Lévy, qui a été entarté 9 fois. Des copains à Lyon qui ont lancé le groupe Al-Qaïtart. Alors leur cri c'est pas la Wakbar, hein, c'est à la rhubarbe, parce qu'il y a toujours de la rhubarbe sur leur c'est leur marque de ils font des attentats pâtissiers, hein, bien sûr. On est dans le clown activisme, le voilà. L'idée c'est de s'habiller en clown, bien sûr, mais pas pour faire le clown, pas pour faire spectacle, pas pour être juste là pour divertir, non, pour créer une confusion créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va aller face à des adversaires, souvent dans les sommets de l'OTAN, du G8, là où on négocie notre avenir au poker entre maîtres du monde, et où là généralement la police nous empêche d'aller dire ce qu'on pense de ces politiques aux maîtres du monde. Ils veulent pas le dialogue et nous on veut beaucoup le dialogue, et malheureusement on nous met des policiers face à nous, et les clowns peuvent bien souvent introduire une saine confusion au milieu des troupes de police, parce que vous voyez, un policier qui voit un clown, le clown qui voit un collègue, parce que les clowns forment des brigades, vous avez la fameuse BAC, la brigade activiste des clowns, vous avez les fameux CRS, les clowns à responsabilité sociale, vous en avez beaucoup d'autres comme ça. L'idée c'est d'imiter la police, d'aimer la police, les militaires aussi, et de vouloir les aider, les rejoindre, les retrouver comme des amis, etc. Et ça, quand on le fait pour de vrai, ben c'est très drôle, c'est très fun, ça apaise, enfin ça fait reculer la peur, et ça fout un beau bordel chez les policiers, parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas entraînés à gérer un clown. Ils sont entraînés à gérer quelqu'un qui leur veut du mal ou à qui ils veulent du mal. Là, le clown, il vient pour les embrasser. Alors, c'est compliqué de dire, bon, non, me touchez pas, d'accord, bon, et après, le clown, il va ramper pour jouer à cache-cache entre les jambes du policier. Alors, le policier est très embarrassé vis-à-vis de ses collègues, alors, il va attraper le clown, le ramasser, alors le clown va ensuite dire, c'est lui le plus sympa, il faut se faire photographier avec le clown, avec le policier. Ils vont élire le policier le plus beau, le plus sympa, celui qui a le plus gros revolver, ça va être le chef, alors on va voir le chef, etc. Puis en fait, ils vont créer beaucoup de désorganisation dans la police qui va permettre à d'autres militants peut-être de franchir le barrage et d'aller voir les maîtres du monde. Alors, il y a plein de façons de faire du clown activisme. Ici, la brigade activiste des clowns à Paris avait ramené le porte-amiante Clémenceau. Vous vous rappelez de cette histoire, on envoyait notre vieux porte-avions nucléaire se faire désosser en Inde, dans les chantiers épouvantables de misère là-bas. Grâce à une action de Greenpeace, l'État français en catastrophe a dû le ramener, et là les clowns ont ramené leur porte-amiante au ministère de la Défense. Là, ils font bien sûr une. Ils font souvent des conférences de presse clandestines. Hein. Et puis, bah là, pour l'inauguration d'une statue de. Pardon, à droite d'une statue de Jean-Paul II dans un petit village breton, une procession, enfin bon. Des choses assez amusantes. Là, c'est. On est de retour à l'île Longue. C'était une attaque de clowns. Contre la base de l'île Longue, donc on était 52 clowns et bah voyez surarmés, on a on jouait un petit peu avec la police face à des moyens quelque peu disproportionnés. Là, vous avez affaire à un clown, hein, bien sûr, qui a usurpé l'uniforme de l'autorité. On nous a envoyé aussi les ninjas, les commandos. Il fallait au moins ça hein, pour arrêter les clowns. D'autant plus qu'ils avaient une arme secrète que je vous montrerai dans un instant. Alors, une autre façon d'utiliser l'humour dans la désobéissance, c'est le détournement de pub. Nos multinationales préférées dépensent énormément de notre argent, parce qu'en définitive, c'est bien le nôtre qu'on leur a donné, pour nous convaincre qu'elles font le bien et qu'il faut continuer de dépenser nos sous auprès d'elles. BNP Paribas, par exemple, la banque du nucléaire et du lobby des armes, a fait une grande campagne de publicité pour la banque d'un monde qui change. Et nous, on trouvait qu'elle changeait pas tellement puisqu'elle avait 142 filiales dans des paradis fiscaux et qu'elle continuait de financer ce qu'il y a de plus épouvantable sur cette planète. Donc, on s'est dit que la bande d'un monde qui continue de tricher, ça pouvait être sympa. Donc, on a recouvert un certain nombre de ces grands panneaux qui défigurent nos paysages et nos entrées de ville pour plomber un petit peu sa campagne de pub. Et ça, au-delà, c'est les militants anti-pub qui s'en donnent à cœur joie, avec plus ou moins d'humour dans leur slogan, pour tenter de résister à l'intrusion publicitaire, à l'agression publicitaire. Une autre façon que moi j'ai appelée le cheval de Troie, c'est l'idée d'envoyer quelque chose au milieu de l'adversaire, enfin quelque dans le champ de l'adversaire. Là, c'est encore les Yes Men, mais qui ont travaillé avec une boîte de jeux vidéo. Ils ont créé une application pour les fameux iPhone, les téléphones portables de Apple, qui est donc vous l'achetez, elle coûte 90 centimes, elle est sympa, donc il y a sûrement plein de gens qui l'ont acheté, et elle raconte comment sont fabriqués les iPhones. En fait, elle vous demande de gérer la fabrication d'un iPhone, donc depuis les usines où on exploite les enfants de 10 ans et les mines où les mêmes enfants creusent le sol sous la protection de gardes armés payés par les dictatures, jusque au suicide des salariés en Chine, en passant par le retraitement des déchets, enfin je veux dire la livraison des déchets dans les pays pauvres, ce qu'on appelle du recyclage. Et Apple a mis un petit moment avant de réaliser que ce jeu vidéo était en train de se répandre, ça c'était l'an dernier, jusqu'à évidemment le supprimer. C'est très drôle évidemment ce jeu vidéo. Et justement, il y a un groupe de militants italiens qui en ont fait leur spécialité que de développer des jeux vidéo qui, par l'humour subversif, vont dénoncer un certain nombre de choses. Alors, c'est des tout petits jeux vidéo, très courts. Le plus connu, c'est celui de McDonald's. Vous êtes un gérant de McDonald's et vous devez gérer toute la chaîne. Depuis la destruction des forêts brésiliennes pour planter du soja OGM, en passant par l'élevage intensif de bœufs pour lesquels il faut aussi couper la forêt, jusqu'à l'exploitation des salariés avec des cadences infernales. Et on découvre qu'il n'y a aucune façon de gérer proprement un McDonald's, que de toute façon c'est un désastre social et environnemental. Ils en ont fait plein comme ça, d'autres plus olé-olé sur les identités sexuelles. Plein de choses assez drôles. Il s'appelle Molle Industria. Alors, surprendre et ridiculiser, une façon évidemment de marquer des points contre un adversaire. Je vous avais parlé tout à l'heure de l'arme secrète des clowns dans leur attaque de la base de l'île Longue, c'était en 2007. Eh bien, l'île Longue où il y a les sous-marins nucléaires qui portent tous ces missiles qui peuvent en un quart d'heure détruire l'humanité, ils ont fabriqué leur propre sous-marin. Donc une baignoire hein, renversée avec deux clowns en dessous. Et alors, c'est drôle, c'est ridicule, c'est absurde, sauf que ça avance. Ça avance et ça avance vers la ligne rouge où il y a les bouées qui interdisent de rentrer dans la base de l'île Longue. Et puis derrière, il y a les mines. Alors, faut se slalomer. Puis ensuite, ben, il y a les sous-marins nucléaires et tous les secrets où la démocratie ne, enfin, tout cette, ce lieu où la démocratie n'entre pas d'habitude. Donc, il a bien fallu qu'à un moment, les militaires, les commandos Uber, etc., aillent intercepter le sous-marin. Le clown activiste, vous voyez, là, le policier a du mal à garder son sérieux parce que deux clownettes l'embrassent, le câline, lui ont nettoyé son uniforme. Enfin bon, c'est pas facile. Ça marche aussi en dictature. Le risque est évidemment bien plus grand. Mais là, c'est la Birmanie des généraux, sympathiques généraux coactionnaires de Total, qui interdisent ces généraux absolument toute expression politique. Alors, c'est en train de changer depuis quelques mois, mais ça a été ça très longtemps, timidement. Eh bien, là, il y a deux espèces de coluches, les Moustache Brothers, qui se sont, qui ont utilisé l'arme de l'humour, mais un humour politique directement désobéissant, pour faire de la politique, provoquer des événements politiques au milieu des gens, se rendre célèbre et ensuite être protégé par leur notoriété, bien sûr. Vous voyez, les Moustache Brothers sont sous surveillance, c'est les plus recherchés dans le pays, etc. Mais tout le monde sait où ils sont. Alors, c'est pas José Bové à droite. Et à côté, pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, les paysans du Larzac, vous l'avez vu si vous êtes allé voir l'excellent Tous au Larzac, organise une manif de moutons au pied de la Tour Eiffel. Alors, une technique qui peut manier l'humour, pas toujours, là les exemples sont un peu trash, le théâtre tract. Plutôt que de distribuer un tract que peu de gens vont lire, que peut-être qui va peut-être même faire fuir les gens, quand vous tendez un tract, généralement vous envoyez la moitié qui font un crochet pour vous éviter, eh bien vous pouvez mettre en scène votre tract. C'est déjà plus drôle, plus léger, plus sympa. Alors là, c'était pas forcément très drôle, donc je vais pas forcément vous les... Bon, celle-là, là, c'est sur la question du Tibet. Pendant les Jeux Olympiques de Pékin, McDonald's était l'un des sponsors des Jeux Olympiques de Pékin, donc en gros d'une très grande opération de communication de la plus grande dictature du monde. Et vous le savez, la Chine s'est fait une spécialité d'assassiner les Tibétains, dont les moines, et de prélever les organes pour les revendre. Donc ben, on a fait pareil, on a un policier chinois, un militant déguisé, qui a poursuivi devant tous les clients du McDonald's des Champs-Élysées un moine tibétain, puis ils l'ont tué, et puis un docteur chinois qui est venu prélever les organes en direct, histoire de... Alors, plus léger, plus drôle, les manifs de droite. Les manifs de droite, l'idée, c'est de caricaturer l'adversaire. Alors, les manifs de droite, généralement, on ne le voit pas bien là, mais se font sur le trottoir, avec un slogan répété régulièrement qui est « Excusez-nous pour le dérangement », parce que l'idée, c'est quand même de minimiser au maximum l'impact. Et puis bien sûr, quand la police passe, on l'applaudit, parce que c'est nos amis. Et alors l'idée, c'est de choisir un thème. Alors il y a les manifs de droite anti-écolo, les manifs de droite sur la question de la finance, comme celle-là, de la liberté, consommer c'est la liberté, etc. Vous avez des slogans CAC 40, ouais. Bon, sur l'éducation, si c'est assez drôle, enseignants, feignants. L'idée, ouais, vous le comprenez, c'est d'utiliser la caricature pour comprendre un certain nombre de choses aux gens qui vont vous voir, qui vont vous entendre et moquer les arguments ou l'absence d'arguments de l'adversaire. Plus amusant, sauf qu'il faut se lever tôt, le réveil ministre. L'idée, notamment reprise par le collectif La France qui se lève tôt en 2007 pendant les élections présidentielles. Rappelez-vous, il y avait la France du haut, la France du bas, il y avait ceux qui se lèvent le matin pour gagner plus et qui gagnent moins, mais qui se lèvent tôt, ça c'est vrai par contre. L'idée c'était de faire des manifs très tôt pour se dire, ben voilà, nous on est la France qui se lève tôt et on va aller voir la France qui s'est pas encore levée. Dans les quartiers riches, là où il y a les ministres, là où il y a les industriels, et on va les réveiller, puisque maintenant on est la France qui se lève tôt. Donc, opération casserole sous les fenêtres, ils ont fait ça pendant presque un mois de campagne électorale, pour se moquer de la démagogie de Nicolas Sarkozy. Le théâtre de l'invisible, alors ça c'est pas mal aussi. Alors vous allez me dire si vous goûtez l'humour noir, parce que c'est un peu noir, mais c'est de l'humour quand même. Le théâtre de l'invisible, vous allez jouer une scène de théâtre au milieu des gens, mais cette fois les gens ne savent pas que c'est du théâtre. ce que je vous ai montré tout à l'heure, évidemment, avec le moine tibétain, là, c'était faux et tout le monde le savait. Là, les gens ne savent pas que c'est faux. Premier cas, action antinucléaire assez typique. C'est mieux quand il y a une centrale nucléaire pas très loin. Vous avez quelques militants habillés en policiers. Bon, c'est interdit, mais on est dans la désobéissance civile, donc on s'en fout. Donc on arrête le trafic. Bonjour, gendarmerie nationale. Il y a eu une petite fuite à la centrale. Rassurez-vous, c'est pas plus grave que Tchernobyl. Alors maintenant, on dit Fukushima. Respire, c'est du japonais. Donc alors, on demande ensuite aux gens d'où ils viennent. Et quel que soit l'endroit d'où ils viennent, évidemment, on est affolé parce que c'est justement là qu'il y a nuage. Ensuite, on regarde qui il y a dans la voiture. Et dès lors qu'il y a des personnes âgées ou des enfants, oh, mon Dieu, et en plus il y a des enfants, mais non, tout va bien, non, bien sûr. L'idée donc, c'est de les affoler en faisant semblant de les rassurer, en surjouant l'incompétence, à peu près ce qui se passerait s'il y avait une vraie alerte nucléaire en France. Et puis ensuite, on ramène des militants déguisés en scientifiques. Alors un scientifique, comme personne ne sait à quoi ça ressemble, c'est soit la blouse blanche, soit la combinaison étanche, avec un compteur Geiger. Là aussi, personne ne sait à quoi ça ressemble. En fait, un compteur Geiger aujourd'hui, c'est une boîte d'allumettes. Mais ça, personne ne le sait. Donc, ne prenez surtout pas une boîte d'allumettes. Prenez un manche quelconque. Là, c'est un détecteur de métal. Bon. Et puis, bien sûr, vous mesurez la radioactivité de la voiture. Et puis, au moment où les gens s'attendent à ce que vous leur annonciez le résultat en blêmissant, bien sûr, vous leur expliquez que pour leur sécurité, vous ne pouvez pas leur dire le résultat. Histoire que... Bon. Alors ensuite, vous les invitez bien sûr à se brancher sur France Info, à remonter vite leur vitre, et puis, ma foi, comme nous, on n'a pas eu de consigne, à aller voir nos collègues qui sont 500 mètres plus loin, en aval. Et là, pendant les 500 mètres, en voiture, les gens vont se poser beaucoup de questions sur le nucléaire. Peut-être les questions qui ne s'étaient pas posées jusque-là, ou n'avaient pas voulu se poser jusque-là. Il va y avoir un vrai débat démocratique dans la voiture, ou dans la tête s'ils sont tout seuls. Et puis 500 mètres plus loin, évidemment, la deuxième équipe va leur dire « Bon, cette fois, c'était un canular, mais ça aurait pu être vrai. » Et là, on leur tend un tract. Eh bien, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on pensait qu'on se ferait insulter, c'est logique. La première fois qu'on l'a fait, moi, je l'ai fait 4 fois et d'autres amis ont fait la 5e. Les 95% des gens réagissent très, très bien en nous remerciant de leur rappeler la réalité du nucléaire que, évidemment, ils s'emploient à enterrer, puisque quand on vit à côté d'une centrale, c'est difficile d'y penser tous les jours, sinon on a très peur. Et les 5% qui nous insultent, c'est les gens qui travaillent à la centrale, hein, évidemment. Alors, deuxième humour, alors là, on est dans le très noir. Vous parliez de France-Afrique tout à l'heure. Un ancien président à nous, qui s'est fait passer pour de gauche, avait une politique très particulière avec l'Afrique et notamment pendant vis-à-vis du Rwanda, il se trouve que la France s'est rendue coupable de complicité de génocide. Nous avons armé les tueurs, nous les avons entraînés, nos soldats ont protégé le génocide, puis exfiltré les génocidaires, tout ça financé par la BNP, qui a juste fait transiter les fonds entre le gouvernement français et les génocidaires. Certains vivent en France aujourd'hui. C'est très grave, c'est abominable. Et il y avait, c'était il y a peut-être 2-3 ans, la vente aux enchères des effets personnels de François Mitterrand pour une quelconque œuvre humanitaire. Mais d'abord, les objets étaient exposés à Drouot, et puis le lendemain, il y avait les enchères. Donc il y avait le chapeau, il y avait les chars, tout le monde connaît. Et nous, on a rajouté un stand. On a amené une machette, puisque ça a été payé par la France, c'est un souvenir de François Mitterrand au Rwanda. On a amené des crânes de Tutsi, hein, massacrés, et puis différents accessoires comme ça qui rappelaient un peu l'ambiance du Rwanda en 94. Les vigiles ont mis une demi-heure à comprendre qu'on faisait pas partie de l'exposition. Donc pendant une demi-heure, on a fait plein d'interviews, les gens étaient étonnés. Personne nous a demandé les prix, mais... Alors à cause de nous, ils se sont dit, bon, ils vont nous emmerder, on va aller faire la vente aux enchères le lendemain ailleurs. Donc ils se sont délocalisés et nous les y avons suivis. Et au moment où le premier objet devait être amené, eh bien, nous avons amené le premier objet, une machette ensanglantée, puis un crâne de Tutsi, devant 800 fans de François Mitterrand qui étaient venus dépenser des fortunes pour acheter un chapeau et une écharpe. Ça a été un peu mouvementé, il y a eu pas mal de censure médiatique parce qu'on avait énormément de données d'interviews et tout ça, et il y a eu seulement quelques lignes dans Le Monde, quelques trucs, mais vraiment très peu. Le culot, arme de l'humour, là on vient dénoncer la corruption qui prévaut dans le partage des marchés de la distribution de l'eau. Vous savez que dans à peu près toute la France, peut-être êtes-vous une exception ici, je ne sais pas. L'eau est distribuée, privatisée, distribuée principalement par Veolia, quand c'est pas Suez, quand c'est pas la SOR, ex-Bouygues. Et que, évidemment, ces trois entreprises, pour se partager le gâteau de la distribution de la flotte, de l'eau potable et de sa potabilisation, eh bien, ont distribué largement les enveloppes. Et là, on vient brocarder justement une personnalité politique de premier plan qui est au cœur d'une de ces affaires de corruption, André Santini, qui en gros contrôle le marché d'Île-de-France, qui est le principal marché de distribution d'eau en Europe, et qui attribue systématiquement le marché à Veolia. Bon, Veolia, c'est vrai que c'est elle qui distribue l'eau en Île-de-France depuis 75 ans. Hein. Donc, c'est pas que André Santini qui est le problème, mais bon. Depuis quelques années, la ville de Paris a remunicipalisé son eau. Donc, toute l'Île-de-France est privée, Veolia, sauf Paris. À Paris, les Parisiens payent 30% moins cher leur eau, quand même. Hein. La même eau. Hein. Donc, ces 30% ne sont pas perdus par tout le monde. On est venu les rendre à André Santini à l'occasion du dernier meeting des régionales de l'UMP, donc il y avait en région parisienne, donc il y avait 9 ministres qui étaient venus en personne soutenir André Santini devant donc des électeurs très nombreux. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec le culot et les complices et quelque chose qui nous a fait beaucoup rire, donc une sorte d'humour. Vous allez être juge. D'abord, avant le début du meeting, les ministres étaient sur la scène, André Santini également, et puis il y avait eu les premiers tests micro, mais personne n'avait encore pris la parole. Deux de nos amis se sont habillés très... comme à Versailles, et se sont munis d'un merveilleux bouquet de fleurs, comme dans un mariage, c'est à peu près la principale dépense de notre action. Et sont montés sur la scène pour remettre le bouquet à André Santini. Donc il a été flatté, il a pris le bouquet, il s'est dit que c'était des fans, tout ça. Les ministres et la police, quand il y a des ministres, il y a des policiers, se sont dit que les deux copines faisaient partie de l'organisation, puisque on les laissait monter sur la scène et elles remettaient un bouquet. Et du coup, les policiers et les ministres ne se sont pas inquiétés quand l'une des deux est allée au micro prendre la parole. Et remercier André Santini pour le fait que nous payons 30% plus cher notre eau, parce qu'il fallait bien payer la campagne électorale avec les enveloppes de la corruption de Fricolia. Et de dire, bah voilà, on vous a ramené quelques-uns des sous qu'on paye en trop, et on a jeté plein de billets et tout ça. Bon, ils ont mis un petit moment là aussi à comprendre ce qui se passait, hein. Bon, 5 minutes. L'enjeu des complices, c'est que, vous savez, quand vous êtes dans un milieu hostile, si vous vous en prenez au leader, au gourou, tout le monde veut vous lyncher. Donc ça peut aller assez vite, être un peu mouvementé. On pressentait une issue de ce type, donc on a placé des complices à nous dans la foule des fans. Et du coup, au moment où les copines ont pris la parole pour dire ça, eh bien, il y a eu bien sûr les premiers sifflets qui se sont élevés. Eh bien, nos amis dans la foule ont commencé à parler à leurs voisins, mais assez fort, pour que tout le monde entende, en disant « Mais c'est vrai ce qu'elle dit là, mais c'est vrai que c'est cher l'eau en Île-de-France, et vous le saviez, vous ?» C'est vrai que j'avais entendu parler de cette histoire de corruption. Ah bon, c'est là qu'il passe notre pognon, etc. Du coup, les gens commencent à discuter dans la foule, voire à s'engueuler, et du coup, les ministres et les policiers ne se sentent pas vraiment soutenus par la foule. Et donc, ils nous ont laissé parler plus que de raison au micro, avant d'avoir l'idée de couper le micro techniquement, plutôt que de nous sauter dessus physiquement. Et puis, nous ont accompagnés gentiment à la sortie, plutôt que de nous sauter dessus, ce qui était quand même pas mal. Alors, un autre type d'humour, la défense du point de vue de l'adversaire jusqu'à l'absurde. Ceux qui n'ont pas jeté leur télé, vous l'avez peut-être vu, à Canal+, puisque c'était un groupe qui s'appelait Action Discrète. Je sais pas si ça continue encore. J'ai jeté ma télé. Ils se sont beaucoup moqués à un moment du débat sur l'identité nationale, dont tout le monde a oublié la conclusion, puisqu'il n'y en a pas eu, de toute façon. C'était de la pure démagogie, mais eux se sont pointés dans les débats, dans les préfectures, tout ça. Et ils ont surjoué la défense du point de vue de l'adversaire jusqu'à l'absurde. Alors là, je vous ai mis le texte. Un docteur en droit propose de circonscrire la question de l'identité nationale à l'île de la Cité, rue Saint-Louis, numéro 33, premier étage, palier de gauche. Complètement n'importe quoi. Un fan de Super Mario, c'est des petits jeux électroniques, estime qu'être français, c'est être un aventurier, même si au départ, c'est pas gagné parce que nous, les Français, on n'est pas très costauds. Et puis, on aime bien porter la moustache. Ça commence à partir complètement en vrille. Et on va à la cueillette aux champignons, ce qui est très français. Bon, n'importe quoi. Un dernier participant a honte d'être français et en est fier. Ok. Et à la fin, tout le monde finit par s'engueuler. En fait, les acteurs finissent par s'engueuler pendant qu'au fond, un quidam se met à chanter sur l'air de la Marseillaise, un peu n'importe quoi. Cette vidéo a fait un buzz d'enfer, a contribué pas mal à ridiculiser, à mettre fin à ce pseudo-débat sur l'identité nationale, qu'on cherche toujours. Donc, hein. Alors, une autre façon de bien rire et en même temps d'agir, les prières de l'église de la très sainte consommation. Alors ça, c'est un révérend américain, enfin un faux révérend, un fou en fait, qui s'est mis à qui a créé l'église de la très sainte consommation, et puis ça a pas mal pris en France aussi. L'idée, c'est de remercier les supermarchés pour les soldes, les promotions et les magnifiques produits qu'ils font pour nous. Alors évidemment, la croix, c'est l'euro, hein. Et puis on vient faire des prières dans les supermarchés, au milieu des rayons. Alors parfois, quand il y a vraiment des promotions très fortes, alors là, on rampe tellement on est bluffé par ça. Alors. C'est ridicule, c'est drôle, ça fait passer un message et ça fait baisser le chiffre d'affaires du supermarché parce que pendant ce temps-là, tous les gens y regardent et ne dépensent plus. Alors bien sûr, ils vont probablement à un moment dépenser, mais quand la police va venir pour chasser les fanatiques de la secte, ça va faire tellement de bazar que y a plein de gens qui vont oublier de dépenser, de consommer, ou qui vont oublier des trucs qu'ils n'avaient pas envie d'acheter, mais le supermarché c'est bien fait, hein. Vous venez pour un produit, vous sortez avec 10. Donc le chiffre d'affaires, il commence à baisser. C'est tout ça. Ah, retour aux Yes Men, leur grand, grand coup. L'usurpation d'identité pour faire baisser la valeur boursière. Bien souvent, l'autorité ne tient que sur le bluff, sur l'apparence, sur quelques accessoires, genre un costard, une cravate. Donc, on peut assez facilement se faire passer pour le représentant de Union Carbide, l'une des plus grosses multinationales de l'empoisonnement chimique, qui a racheté Bhopal, Bhopal dont on sait qu'elle a été obligée de changer de nom parce qu'elle venait d'assassiner plusieurs milliers de personnes, d'intoxiquer plusieurs milliers de personnes suite à un accident dans une de ses usines, qui n'était évidemment à aucune des normes de pays développés, en Inde. Les gens n'ont jamais été indemnisés, les survivants, les familles, des gens ont développé des cancers, beaucoup sont morts, je crois que c'est 20 000 personnes qui ont été affectées par cet accident de Bhopal il y a déjà pas mal de temps, et Union Carbide qui a racheté Bhopal, ou qui a pris Bhopal, a toujours dit que ça ne la concernait pas, puisque c'était Bhopal et ça n'est pas elle. Et bien là, les deux Yes Men, ils ont réussi à... en faisant un communiqué de presse, à se faisant passer pour des représentants du management de Union Carbide, ils ont réussi à se faire interviewer par BBC World pour annoncer que Union Carbide admettait ses erreurs, reconnaissait ses erreurs et s'apprêtait à indemniser 20 000 personnes en Inde et avec l'argent des profits que de toute façon ils faisaient régulièrement. Et 20 ans après l'accident. Et là, alors là, ça fait la une des journaux du monde entier. Le cours de la bourse, le cours des actions Union Carbide fait le plongeon, hein, parce que les actionnaires sont, ils n'ont pas les mêmes intérêts nécessairement que les malades de Bhopal. Et bien sûr, Union Carbide est obligée de démentir. En disant qu'ils en ont rien à faire des malades et que surtout ils vont pas les indemniser, ce qui est quand même catastrophique pour leur image et met un petit coup de pression sur les gouvernements. Alors les Yes Men, ils ont aussi fait des interviews pièges pour montrer le vrai visage d'un homme politique. C'est intéressant de les changer de contexte. Quand ils sont en France, ils vont tenir un discours et quand ils sont sur un média qu'ils croient américain, eh bien ils vont peut-être tenir un autre discours. Alors Balkany et Claude Goasguen ont été l'un et l'autre interviewés sur des choses différentes. Alors Goasguen, c'était sur le réchauffement climatique et les Yes Men, se faisant passer pour des journalistes de je sais pas quoi, CNN ou autre, dans un studio de carton-pâte qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont aménagé à Paris. Eh bien, ils interrogent Claude Goasguen sur sa
sur la lutte contre le réchauffement climatique en expliquant que les hommes d'affaires américains ont un peu peur de ce surcroît de conscience des Français, que vraiment ça fait peur, et on a l'impression que vraiment les gens vont lutter contre le réchauffement climatique et c'est pas bon pour le business. Alors Klaus Goagen dit non, attendez, rassurez-vous, c'est vrai que nous sommes contraints de faire régulièrement des déclarations disant que nous nous soucions du réchauffement climatique, mais vraiment on ne va rien faire. Ah bon. Et alors après Andy, donc l'un des deux Yes Men, va dire. Alors il y a des hommes d'affaires américains qui ont proposé, parce que quand même la banque ils se font, donc c'est ballot, il faut faire quelque chose, et ils ont proposé d'aller chercher, fabriquer de la glace dans des grands réfrigérateurs et de l'emmener en avion au pôle Nord pour colmater. Et il dit, en plus, on pourrait faire payer ça par l'ONU, tout ça. Et Goagen, il dit, ouais, c'est une super idée. Un pont aérien comme ça. En plus, ça ne change rien au réchauffement climatique. L'avion, c'est bien connu. Hop, et on va remettre de la glace. Enfin bon, il dit n'importe quoi. Il n'y connaît rien et il est cynique. Bref, son vrai visage se révèle. Alors, Balkany, c'est son rapport à la pauvreté qui est brocardé puisque lui va dire que en France, il n'y a pas de pauvres, encore moins de sans domicile fixe, sauf ceux qui bien sûr l'ont choisi parce qu'ils préfèrent les trottoirs. C'est vrai que nos trottoirs sont beaux. Bon, ils s'enfoncent largement et ça a fait un buzz à fond. Bon, c'est pas sûr que ça ait fait perdre des électeurs à ces gens-là, mais peut-être, on ne sait jamais. Alors, des petites ruses pour empêcher de nuire avec humour. Quand vous avez quelqu'un qui vient raconter n'importe quoi pour avoir vos voix ou votre argent dans une réunion publique, eh bien, plutôt que d'être contre lui, vous êtes son ami. Alors vous allez l'applaudir. Ouais, sans jamais vous arrêter. Fin de la réunion. Il savait pas lui-même qu'il avait des fans à ce point-là, mais... Alors, montrer ses seins aux intégristes, ça a été fait à Toulouse il y a pas très longtemps par des copines. Évidemment, pas, les copains étaient à côté, mais ils n'ont pas tellement montré leurs seins. Donc évidemment, il y a de plus en plus là, enfin il y a un revival d'intégristes à l'occasion des fameuses pièces de théâtre. Des féministes sont venues et pouf, on leur met des dessins sur devant le nez. C'est compliqué parce qu'ils n'arrivent plus à trop se concentrer, ils savent pas s'il faut regarder. Enfin bon, ils sont tout d'un coup un dilemme profond, une crise de foi quand même. Bon, alors répondre du tac au tac, c'est pas mal. Ça, c'était un Iranien qui avait dit que les tremblements de terre peut-être de l'Iran, je sais plus quoi, étaient dus à l'indécence des femmes, bien connu. Et donc il y a une jeune américaine sur son Facebook qui s'est dit. On va voir si c'est scientifique. Alors quand on montre sa poitrine, ça fait des tremblements de terre. Bon, tel jour à telle heure, on va être des milliers à secouer nos poitrines. On va voir si ça provoque un tremblement de terre. Et ça a été donc le boop quake. Boop, c'est voilà. Donc ça a fait un peu de buzz dans le milieu anglo-saxon. Des milliers de femmes se sont inscrites en secouant leur truc pour faire une sorte de bras d'honneur sympathique à cet islamiste furieux. Alors la provocation, c'est évidemment un des registres de l'humour les plus pratiqués dans la désobéissance civile. Là, c'était une occupation de l'ancêtre de Pôle emploi, le siège de l'UNEDIC, qui, à Paris donc, on était 120 chômeurs, militants, etc. On a occupé ça 3 jours. La photo est prise au moment où la police envahit de partout, donc c'est un peu la fin de l'action. La petite touche de provoque d'humour tient éradié, puisque évidemment le boulot maintenant de Pôle emploi n'est plus d'accompagner vers le travail, mais de radier vers le chômage, enfin de radier du chômage même, sans pour autant donner un travail. La provocation, là, c'est le collectif Sauvons les riches. Sauvons les riches, il milite pour quelque chose de très sérieux, qui est la limitation des revenus maximaux, enfin le plafonnement des revenus maximaux. Et là, ils viennent remettre le diplôme du meilleur fils à papa à Jean Sarkozy dans un dîner mondain de je sais plus qui, le Lions Club, ou enfin un club de gens riches. Et ils viennent le remercier parce qu'il va prendre l'EHPAD, vous savez, le contrôle de... Bon, finalement, il n'a pas réussi, très largement grâce aux actions de Sauvons les riches. D'ailleurs, la provocation... Alors ça, c'est pas forcément drôle, là, donc je vais passer, puisque c'était à Vichy, notre ministère de feu, le ministère de l'identité nationale, avait eu la bonne idée d'organiser le sommet européen de l'immigration à Vichy. Parce que, bien sûr, c'est une ville neutre, enfin, qui n'évoque rien, en tout cas. Donc on s'est dit, bon, puisqu'ils font le parallèle, on va le faire aussi. On est venu en costume et avec des étoiles rouges à six branches qui disaient sans papier et avec des cheveux. Puisqu'on était allé dans des coiffeurs, chez des coiffeurs pour collecter des cheveux. Et puis on a marché vers les cordons de police qui protégeaient l'accès au maître du monde en disant « Bon, on a un peu compris où vos politiques elles nous emmenaient, donc on vous aide à aller plus vite. » Voilà. La provocation, alors le fameux geste anti-sida de ACT UP qui avait redécoré l'obélisque de la place de la Concorde. À droite, on voit pas très bien parce que j'ai fait une pauvre capture d'écran. Vous l'avez peut-être vu dans un des films de Michael Moore. Michael Moore, c'est un peu un Coluche américain, plus vivant que Coluche, évidemment, et qui est peut-être un peu plus incisif ou un peu plus directement politique. Là, Michael Moore s'en prend à l'industrie du tabac, qui, aux États-Unis, a toujours nié le lien entre tabac et cancer. Et il organise au moment de Noël, d'où le on voit pas très bien, mais le Père Noël et tout ça, il a ramené une chorale de cancéreux, en fait de gens qui se sont fait opérer de la gorge là, donc qui parlent avec un petit appareil électronique, hein, une sorte de micro là, qui mettent là, et on entend une voix électronique qui parle à leur place et qui chante à leur place. C'est de l'humour bien noir, mais il va les faire chanter à l'intérieur du siège de Tobacco de Philip Morris, jusqu'à ce qu'ils se fassent jeter avec la police et puis finissent devant le bâtiment. C'est pas inintéressant. Alors, des provocations féministes. Le féminisme revient pas mal sur le devant de la scène du point de vue de l'action notamment. Vous avez, alors là, ça c'est des féministes en Russie. Qui luttent sur plein de choses. Elles s'appellent les fémènes. Elles utilisent leur corps, la nudité, pour interpeller. Vous avez ici les tumultueuses qui, vous savez, on reproche beaucoup sur les. On s'attaque aux musulmans en disant ils veulent même pas voir une épaule. Alors on a eu des femmes de ni pute ni soumise qui ont dit regardez mon épaule, j'ai bien le droit de la montrer, etc. Par contre, les femmes doivent toujours couvrir leur poitrine dans les piscines, tandis que les hommes ont le droit de les montrer, de la montrer. Et donc les tumultueuses, bah ma foi, elles viennent faire du sein nu en piscine pour dire notre corps n'est pas un objet sexuel, seulement quand on a envie. Et donc égalité. Alors c'est aussi provoque, c'est assez drôle. Vous avez là des femmes qui se battent pour le droit tout simplement de s'habiller comme on veut, sans être jugées, critiquées, insultées. Si je veux être en string, en porte-jartel, j'ai le droit. Si je veux être en bonne sœur, j'ai le droit, etc. Et ça c'est très anglo-saxon, elles font des beach walk, c'est-à-dire des marches des salopes en français. Il y en a eu une à Toulouse aussi. L'idée vraiment c'est de dire je suis un être humain comme les autres, donc j'ai le droit de m'habiller comme je veux, et tant pis si vous n'êtes pas d'accord. En bas vous avez la barbe association féministe qui elle lutte contre le caractère exclusivement masculin de la plupart des lieux de pouvoir. Conseil d'administration multinationale, assemblée nationale, assemblée d'actionnaires, etc. Et du coup, elles envahissent les lieux de pouvoir, l'Académie française aussi, hein, où il y a pratiquement que des hommes, sinon que des hommes, et elles arborent une barbe, et elles se mettent au milieu des gens pour souvent les féliciter du fait qu'ils ont brillamment réussi à exclure toutes les femmes, à rester vraiment entre hommes pour garder le pouvoir. Alors, d'autres provocations féministes autour de la religion. Les Nikabitch, elles ont fait ça à Paris. Elles ont dit, bah, une femme, c'est comme on veut. On fait ce qu'on veut. On a le droit d'être sexy, ça c'est le bas. Et on a le droit d'être couvert, c'est le haut. L'important, c'est que la femme fait ce qu'elle veut et elle vous en. Et à droite, bah, là, c'est une attaque un peu des religions par des féministes. Un autre mode humoristique, c'est de faire la fête, mais chez les autres. Sans être invité. Hein. Alors, il y a eu un mouvement anglais qui a connu un grand succès, et je crois que vous avez reçu John Jordan, qui en était le fondateur. Reclaim the street, réappropriez-vous la rue. La rue n'appartient pas aux publicitaires qui la défigurent, n'appartient pas aux commerçants qui veulent nous vendre des trucs, ni aux policiers qui contrôlent les papiers. Non, elle appartient au peuple. Et le peuple a le droit d'y faire des fêtes gratuites, ouvertes, tolérantes, de la diversité, etc. Donc, c'est ce qu'il faisait. Et ils ont fait des fêtes à 20 000 ou 50 000 personnes, où les gens venaient se dire, bah voilà, l'espace public, il est à nous, on fait ce qu'on veut, on danse, on se met nu, on boit, on mange, on échange, on discute, on fait le monde, on refait le monde, etc., etc. C'était pas des orgies, hein, du tout. C'était dans les années 90. Et au-dessus, vous avez une... Alors ça, c'est où, je me rappelle plus, je crois que c'est une invasion festive, ah oui, de Allianz, qui est un des financeurs du 1%, enfin des collecteurs du 1% logement. Donc ils prennent 1% aux entreprises pour financer principalement le marbre dans leurs locaux, au lieu des HLM. Et parce que c'est la Cour des comptes brocarde souvent leur corruption, sans aucun effet. Donc on s'était invité dans le siège parisien de Allianz pour faire la fête. Alors ça c'est très drôle parce qu'évidemment bon, c'est pour perturber le travail et attirer l'attention sur des pratiques scandaleuses. Il y a des moyens assez amusants. Quand vous voulez neutraliser des gens qui travaillent et qui risquent de vouloir vous pousser dehors, sans ménagement, eh bien il faut les inclure dans votre fête. Mais ils n'ont pas envie de faire la fête, évidemment. Il y a le patron qui les regarde, alors ils vont faire un peu semblant de défendre leur travail. Eh bien, offrez-leur du champagne ou du champomis, ça coûte moins cher. Alors, là, on se dit, bon, oui, d'accord, mais devant le boss, ils vont pas accepter mon champomis. Alors, il faut jouer de l'effet de surprise. Vous prenez une flûte en plastique. L'avantage des flûtes en plastique, celles qui sont malheureusement jetables, c'est que leurs pieds s'enlèvent. Donc, enlevez-le. Versez dans la flûte le champomis, et puis hop, offrez le champomis. La personne, elle le prend, après elle n'ose pas le boire parce qu'il y a le chef, mais elle ne peut pas s'en débarrasser, parce qu'il n'y a plus de pied. Et voilà, vous avez neutralisé une personne. Après, vous la prenez en photo, elle fait la fête avec vous, quoi. Des petits trucs comme ça. Alors ça, c'est le collectif Jeudi Noir, justement l'action avec les flûtes de champagne, c'était eux également. Jeudi Noir, ils ont introduit une mascotte, c'est Disco King. Dans toutes leurs actions, ils ont tout le temps manié beaucoup l'humour pour dénoncer la spéculation immobilière et le mal logement. C'est eux qui ont fait le fameux ministère de la crise du logement. Vous savez, rue de la Banque à Paris, juste en face de la Bourse, ils se sont emparés d'un immense immeuble qui appartenait à AXA, AXA Assurance, ceux qui financent les armes à l'étranger, et cet immeuble de luxe était vide depuis des années, ils s'en sont emparés, ils s'y sont logés, et ils y ont logé des mal logés. Et ils l'ont baptisé le ministère de la crise du logement. Et dans la plupart de leurs actions, ils ont utilisé une mascotte, l'un de leurs militants, Thomas, qui s'est créé son personnage, Disco King, et à chaque fois qu'ils envahissent un lieu, ils amènent la musique, ils mettent les trucs des années 70 qui sont bien dansants, YMCA, les machins, et Boney M et tout, et ils dansent, et ils font danser tout le monde, et c'est drôle, festif, ça apaise la tension avec l'adversaire, et ça a été très médiatisé. Alors, passer à l'action. Là, entre parenthèses, vous avez du militantisme gay, homosexuel, et notamment les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. C'est un groupe de travestis qui utilise le look typiquement des sœurs, des bonnes sœurs, voilà, pour notamment faire des actions anti-sida et puis faire parfois des interpellations. Ça peut s'appeler aussi un kiss-in. Je vous ai parlé du die-in. Le kiss-in, ça se fait pas mal au Maghreb. Non, pas mal, j'exagère, mais ça se fait de temps en temps au Maghreb, timidement. Au Maroc et en Tunisie, je crois qu'ils ont fait ça, notamment pendant le Ramadan, où le surcroît de religiosité fait que l'on bannit toute expression de tendresse, d'amour, etc. Et où des gens, là, du coup, s'embrassent publiquement, ce qui est bon. Juste pour dire... Faites votre religion si vous voulez, mais moi j'ai le droit d'embrasser qui je veux, quand je veux. Alors, comment on fait pour mener ces actions? Former un groupe affinitaire, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces actions-là, évidemment, elles sont drôles, on va beaucoup rire, mais parfois on va aussi se confronter à la colère, à parfois la violence de l'adversaire. Il est bon de savoir avec qui on agit, de savoir que l'on peut compter sur ses amis, et que l'on peut aussi compter sur la modération de leur réaction. Parce que si vous êtes dans un groupe avec des gens qui peuvent paniquer, ou au contraire, parce qu'ils ont des blessures intimes, partir un petit peu en confrontation, ça risque de faire dégénérer les choses, et c'est l'inverse de ce que l'on cherche. le groupe affinitaire, ça se, c'est un groupe qui partage des affinités, ça se construit naturellement et ça se travaille aussi au moyen de stages, notamment. L'empathie, c'est aussi un élément indispensable de manière générale à la désobéissance civile, c'est ce qui la rend non violente, et a fortiori aux actions humoristiques. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'adversaire, quel qu'il soit, de se rappeler que c'est un être humain comme nous, que il a eu une autre histoire, il n'avait pas les mêmes parents, le même milieu social, le même ceci, le même cela, il est peut-être devenu ça, il est peut-être devenu grand patron, il est peut-être devenu je ne sais quoi. C'est pas pour ça que c'est mon ennemi, c'est mon adversaire, mais pas mon ennemi. On va jouer aux échecs, l'un contre l'autre, on a tous les deux envie de gagner, mais on n'est pas obligé de se jeter l'échiquier à la figure. Donc l'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, est une façon de réintroduire de l'humour et de la non-violence dans les rapports. Et là, le policier qui vient d'arrêter avec plein de ses collègues, plein de jeunes qui occupaient le Grousse, là, il n'est pas en position de taper quiconque. Prendre le conflit pour un jeu. Bien sûr, c'est un jeu sérieux. Là, je vous ai parlé d'humour, mais on est dans la politique, il y a des antagonismes sérieux, il y a des affaires d'injustice profonde, il y a des souffrances qui sont créées. Et l'humour est aussi une façon de supporter tout ça. Le militant n'est pas quelqu'un qui porte toute la misère du monde sur ses épaules. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre du recul, qui sait utiliser justement l'humour pour garder son équilibre mental. Et ça doit se retrouver dans le conflit. Là, on a une action à Marseille de clowns qui envahissent plan de campagne. Plan de campagne, c'était autrefois la campagne, et maintenant c'est un immense supermarché avec des galeries marchandes à n'en plus finir, ouvert le dimanche, où des milliers de personnes généralement pauvres se précipitent pour regarder les chaussures et les promos. Là, les clowns rampent fascinés par les produits qui sont montrés, ont envie de tout acheter. Ils viennent le dimanche. Hein. Ils expliquent aux gens que c'est vrai qu'on en a marre, on savait pas quoi faire le dimanche. On en avait marre de devoir manger avec ses beaux-parents, de devoir faire la grasse matinée, parce qu'on s'ennuyait. Et puis de devoir lire, enfin des trucs, de faire des promenades, enfin vraiment des trucs ringards. Alors que maintenant, heureusement, grâce à l'ouverture des supermarchés le dimanche, on peut aller regarder des vitrines. On peut visiter des magasins. Et du coup, bah, ils rampent tellement ils sont addictifs. Hein. Alors, ils font pas que ramper dans les couloirs. Ils rentrent dans les magasins et ils veulent tout acheter. Le clown aime le monde, aime tout. Il veut tout acheter. Donc, il prend tout. Et puis, bah, il commence à partir. Alors, évidemment, on l'arrête. On lui dit, bah, non, il faut payer. Payer. Mais les clowns n'ont pas d'argent. Les clowns sont amour. Bon, voilà. Alors, ils sont obligés de tout poser en pleurant, bien sûr. Mais après, ça fait un beau bazar. Hein. Pour finir, petite pub pour les désobéissants. La plupart de ces actions, celles qui étaient en France notamment, nous y avions des militants. Les désobéissants, c'est un collectif qui s'est formé à la fin de l'année 2006 pour renforcer les luttes des autres, les luttes progressistes, environnementales, sociales, de solidarité avec le Sud, de genre, que sais-je, de les renforcer en y ajoutant un outil qui, trop souvent, nous semblait manquer à ces luttes, celui de la désobéissance civile. Et y compris, dans sa version humoristique, nous formons à la désobéissance civile. Tous les week-ends, il y a des stages en France, on en a fait plus de 150, il y a déjà 3000 personnes qui sont passées par nos stages seulement en France, et on en fait maintenant à l'étranger. Ces gens-là, ensuite, souvent passent à l'action, un certain nombre d'entre eux passent à l'action. Et nous faisons aussi des stages de clown activisme sur cette technique très particulière du clown, qui n'est jamais contre, mais à fond pour l'adversaire, et qui, de ce fait, introduit de la confusion, du ridicule, fait comprendre, etc. Donc on forme les militants, on essaie d'apporter une aide stratégique quand la réflexion a peine à décoller. Encore une fois, les gens savent faire une pétition, une manif, et puis quand ils sont passés par ces deux outils-là, qui sont nécessaires, mais souvent pas suffisants, eh bien ils se disent « bon, bah, on peut plus rien faire, on a perdu, stop ». Nous, on vient leur dire, mais non, attendez, une stratégie pour gagner, c'est une analyse de l'adversaire, de ses points faibles, et ensuite une réflexion sur les moyens adaptés pour viser les points faibles. Et l'humour, évidemment, qui touche à la réputation de l'autre, qui va dire la vérité de l'autre, ça fait partie des outils
que l'on va promouvoir. Et du coup, quand les gens vont décider de mettre en place les actions qu'on a réfléchies ensemble, eh bien, nous serons à leur côté, puisque les gens qui sont passés par nos stages et d'autres qui se sont inscrits sur nos listes, c'est 9000 personnes aujourd'hui en France, eh bien, reçoivent régulièrement par mail des appels à l'action de multiples causes. Ça peut être des grévistes d'une entreprise, ça peut être les anti-pubs, ça peut être à côté d'Aurillac de sauver la forêt de Branviel où on veut construire un centre de déchets, ça peut être contre la LGV qui va passer par Bayonne, etc. Comment le gaz de schiste, évidemment, comment bloquer des bulldozers, comment occuper, comment mettre de l'humour dans tout ça. Eh bien, on va accompagner sur le terrain la lutte. Et ça va bien sûr en retour nourrir nos stages. Je vous remercie de votre attention.